Vous entrez dans les ateliers de la nuit. L'atelier du son vous propose d'entrer dans un sommeil léger. Dominique Petitgand, artiste sonore, quitte le son pour une pause sur le papier. Une pause sous forme d'hypnose, avec sur la page des blancs et des accélérations. Plus de son, mais toujours le rythme qui se fait entendre, celui d'une veille, entre sommeil et demi-conscience. L'heure tardive se prête à des questions comme « Êtes-vous long à vous endormir ? Tombez-vous de sommeil ? De quoi vous reposez-vous ? Est-ce que vous vous réveillez la nuit ? À quelle heure avez-vous mis votre réveil ? Êtes-vous plutôt rêve ou cauchemar ? Le livre « Sommeil léger » que signe Dominique Petitgand est totalement raccord avec ses pièces sonores, énigmatiques et magnétiques. Cette fois-ci, il écrit qu'une voix dit « Je ferme les yeux, des fois je les rouvre, des fois je les referme ». Tout un programme en somme pour la dernière partie de l'émission qui vous mènera à minuit. En attendant, Thomas Baumgartner s'aventure au Québec, où la radio tente de ne pas s'endormir, où certains résistants la réveillent.
Das Kapital, c'est le nom du groupe. Das Kapital Loves Christmas, c'est le nom de l'album. Édouard Perrault à la batterie, Daniel Erdmann au saxophone, Asse Poulsen à la guitare. Pour commencer cet atelier du son, bonsoir à vous. Bienvenue. Le divin enfant. Ce soir, dans l'atelier du son, on va parler de radio au Québec suite à la première journée d'études sur la radiophonie québécoise qui a eu lieu à l'Université Laval à Québec fin novembre et sur fond de crise à Radio-Canada. On sera tout à l'heure avec l'artiste sonore Dominique Petitgand qui arrive non avec du son mais avec un petit livre « Sommeil léger » paru chez Le Gac Presse qui nous met volontiers dans un état de songe, un état entre réel et rêve. On entendra quand même des pièces de Dominique Petitgand, si caractéristiques, précises et marquantes, qui sont bien sûr lié au livre, mais d'abord quelques pas dans la neige. Voilà une histoire qui commencerait comme un conte de Noël. Il y a longtemps, très longtemps, plus de 150 ans, l'hiver était très rude dans la vallée des Vosges du Nord et les fruits étaient venus à manquer. Qu'allait-on mettre aux branches des sapins à la place des pommes qu'on y mettait traditionnellement ? un artisan verrier eut l'idée de souffler des boules de verre grosses comme des pommes afin que les sapins ne soient pas nus pour Noël. C'est ce qu'il fit et il fabriqua ainsi la première boule de Noël. Cette histoire se déroule aux confins de la Lorraine et de l'Alsace, où se trouve la petite ville de Maisenthal, porteuse d'une histoire industrielle très riche. À la fin du 19e siècle, c'était le premier lieu de production pour les verres de montre et les verres de lunettes. Aujourd'hui, avec le musée du verre et le Centre international d'art verrier, Maisenthal poursuit l'histoire sur un versant plus artistique. Bonsoir Yann Greenenberger.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous par téléphone. Vous dirigez le Centre international d'art verrier de Maisenthal. Est-ce que j'ai raconté des histoires dans ce petit conte de Noël ? Est-ce que j'ai dit des bêtises ?
Non, pas de trop grosses bêtises.
D'accord.
Non, parfait.
N'hésitez pas à préciser, hein, s'il faut.
Oui, non, mais la seule petite précision, c'est que l'origine de ces boules, c'est plutôt le village voisin de Maisenthal qui s'appelle Götzenbrück. Mm-hmm. Mais c'est de bonne guerre, nous sommes des villages amis, donc il n'y a aucun souci.
Aujourd'hui, le Centre international d'art verrier se trouve bien à Maisenthal.
Tout à fait.
Et il y a toujours la tradition des boules de Noël en verre.
Bah exact. Puisque, en fait, l'ambition de ce centre, c'est de réinscrire une production traditionnelle verrière dans son époque en revisitant des grands standards de notre territoire. Et les boules de Noël, hein, qui ont été, comme vous l'avez précisé, produites dans ce village voisin entre 1858 et 1964, bah, c'est un savoir-faire qui s'est perdu. Nous, en 1999, on avait réuni les derniers verriers vivants qui les avaient fabriqués, nous ont enseigné la manière de les faire, et désormais héritiers à ce jour-là de ce savoir-faire, nous en avons fait un terrain de jeu pour des créateurs contemporains, pour qu'ils puissent y mettre leurs pattes, et par la même occasion, relancer la fabrication de ces boules traditionnelles.
Et puis pour cette année, et c'est là qu'on arrive à un terrain commun entre l'atelier du son et la verrerie de Maisenthal, c'est que vous avez proposé, imaginé une boule qui s'appelle Mix. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boule, Yann Greenenberger ?
Bah écoutez, cette année, c'est deux jeunes talentueux designers, Jean-Christophe Ortib et Juan Pablo Naranjo du studio NOC, qui nous ont mis la tête à l'envers, c'est-à-dire qu'ils nous ont proposé plutôt un protocole technique qu'une boule de Noël, mais qui consistait à croiser des champs d'exploration qui jusqu'ici étaient que très peu croisés, c'est le champ de l'art verrier et le champ de la prise de son sonore. Et donc ils nous racontent une belle histoire, puisque tout part de ces fameux pas dans la neige, de cette sensation unique qu'on a tous vécue et dont on garde des souvenirs inébranlables. Ils ont enregistré ces sons, ils les ont passés au crible de leur ordinateur, en ont déduit des séquences d'ondes sonores qui ont donné naissance à des centaines de sections de formes qui nous ont servi de base pour le choix d'une boule qui a été mise en révolution. Donc, en fait, ce sont des ondes sonores qui ont servi à la production d'un volume.
Alors Jean-Christophe Ortlieb est justement avec nous dans le studio de l'Atelier du Son. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le fondateur de NOC Studio avec Juan Pablo Naranjo. Et vous avez imaginé alors, cette boule Mix dont la forme est issue d'une forme d'onde. Ce qu'on voit quand on regarde un logiciel de son aujourd'hui, c'est l'onde, c'est une trace, c'est un trait, c'est un dessin. Et de ce dessin, vous avez tiré la forme de cette boule Mix qui, quand on la regarde de loin, peut ressembler à une forme de, on va dire, de peut-être de sapin de Noël stylisé, mais quand on s'approche, c'est autre chose. C'est ça, c'est une forme d'onde. Comment ça s'est passé ? Est-ce que la commande de départ concernait le son ou pas du tout ?
Non, la commande de départ ne concernait pas le son. Maisenthal, ce qu'ils attendent, c'est de l'étonnement et de la nouveauté. Donc, on a essayé de surprendre Yann et son équipe. Nous, ce qui nous intéressait, comme les Yann, c'était un design de processus. Donc, moi, pour faire de la musique et avoir eu le home studio, j'avais toujours les courbes sonores devant les yeux. Ron Pablo aussi est ingénieur, donc on a toute cette culture de l'oscilloscope, de la captation. Et ces images, nous, on les trouve belles, ces data, d'une certaine façon. Donc, on souhaitait justement exploiter ces data pour en créer un objet. Ça nous permet deux choses. Bon, il y a un peu le côté, on va dire, geek qui nous intéresse. Et il y a aussi ce que ça nous permet de faire, c'est d'emprisonner une image. Parce que le son, c'est un enregistrement et c'est la captation d'un moment aussi. Et donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait enregistrer qui raconterait une histoire à tous. Et donc, le pas dans la neige nous est venu, d'une part parce qu'en effet, il s'est partagé par de nombreuses personnes, et aussi parce que c'est, pour nous, c'est Maisenthal. Maisenthal, c'est, voilà, c'est la forêt dense, et la neige, le froid. Il fait souvent froid. Et donc, voilà, c'était la volonté de allier technique et poésie, d'une certaine façon.
Yann Greenenberger, comment vous avez accueilli l'idée au départ? Parce que là, on est moins dans une illustration, une forme immédiate. On est dans, il y a une triple couche. Il y a le pas dans la neige, il y a le son, il y a, et puis il y a la forme immédiate qu'on perçoit de la boule. Et évidemment, on ne se dit pas tout de suite que c'est une forme d'onde. Là, tout d'un coup, il y a, le son est en trois dimensions, mais l'idée est aussi de la création.
Ce qui nous a vraiment plu dans ce projet, c'est un peu le secret. C'est-à-dire que, comme l'aime à le dire Jean-Christophe et son acolyte, c'est que lorsqu'on a cette boule en main, la première chose qu'on se dit, c'est qu'elle est élégante, elle est belle, elle a des belles courbes. Et puis, on essaye comme ça, parce qu'on est ainsi fait, on essaye de lui trouver une ressemblance avec un archétype qu'on aurait déjà croisé dans nos vies. Et on a un peu du mal. Et tout à coup, lorsqu'on nous raconte cette histoire, quand on rembobine le fil de la pensée de ces deux jeunes designers un peu fous, on trouve ça génial parce qu'à la fois, l'évocation de base, originelle, c'est des pas dans la neige. Donc, on n'est pas très loin de Noël, on n'est pas très loin des Vosges du Nord, on n'est pas très loin de notre territoire. Et puis, de savoir que, voilà, il y a eu tout ce processus de transformation, autant intellectuelle que technique, et qu'au bout du compte, ce pas dans la neige se retrouve sur un sapin de Noël, on se dit qu'il y a quand même une espèce de circularité incroyable dans ce projet. Et je vous avoue qu'au début du projet, quand on a rencontré Jean-Christophe et Juan Pablo, on avait en tête cette idée, mais on n'avait pas du tout de forme devant nos yeux. Et quand on a parié avec l'équipe d'y aller parce qu'on aimait l'idée, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et quand la forme est née, quand la forme idéale a été choisie et co-construite tous ensemble à partir des ondes sonores, franchement, la première fois qu'on l'avait devant les yeux, dans les mains, on s'est dit « c'est bon, ça y est, on tient le bon morceau ».
Alors comment on peut la trouver aujourd'hui, Mix, cette boule de Noël 2014 de Maisenthal?
Alors il est certain que sismiquement parlant, hein, la zone la plus intense en termes
de diffusion,
c'est le Grand Est. Hein, vous savez qu'il y a des rituels immuables autour des décorations de Noël, des fêtes familiales en Alsace-Lorraine. Donc effectivement, les plus gros points de vente, en tout cas les plus nombreux, sont sur les marchés de Noël de Célesta jusqu'à Nancy. Évidemment, Maisenthal, c'est le pèlerinage absolu, hein, puisque au-delà des boules de Noël, vous verrez les verriers travailler, le musée du verre, etc. Puis on a un petit point de vente à Paris, dans le 6e arrondissement, une petite boutique, mais vous trouverez l'adresse sans encombre sur notre site internet.
Et très bien, puis on mettra le lien sur le site de l'Atelier du Son sur franceculture.fr. Et vous avez commandé une pièce sonore aussi, Yann Greenenberger, vous avez commandé une pièce sonore à Jérôme Perceval.
Tout à fait, vu tout l'environnement de ce projet, hein, autant... on a développé graphiquement tout un environnement vraiment sympathique autour de cette boule, autour de la communication liée au pas dans la neige. Mais on n'a pas pu s'empêcher de travailler avec un compositeur et lui commander une pièce sonore à partir de ces fameux sons de pas dans la neige. Et donc voilà, Jérôme Perceval nous a fait une belle pièce sonore que l'on diffuse aisément dans plein de contextes.
Bon, on va se quitter avec cette création de Jérôme Perceval pour terminer l'évocation de Mix, donc cette boule de Noël de la verrerie de Maisenthal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yann Greenenberger, et merci Jean-Christophe Ortlieb, Nox Studio.
Merci à vous pour l'invitation.
Et bonne suite.
Merci, joyeux Noël.
Tourne une page dans l'atelier du son. La curiosité des médias français pour ce qui se passe chez leurs voisins ou leurs homologues francophones n'est pas toujours au niveau où elle devrait être, pour le dire avec diplomatie. Mais il faudrait être sourd ces derniers mois pour ignorer la crise que traverse Radio-Canada, avec près de 2000 postes supprimés depuis 5 ans et des économies chiffrées en dizaines et dizaines de millions de dollars. C'est dans ce contexte que la première journée d'études sur la radiophonie québécoise a été organisée le 28 novembre dernier à l'Université Laval à Québec. Une journée d'études qui a eu pour vocation notamment de croiser les expériences et les pratiques avec des invités venus de France et de Belgique, entre autres. Se parler à plusieurs de ce que peut devenir une radio en français, voilà qui a attiré notre attention à l'Atelier du son. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous inviter, Marie-Laurence Rancourt. Vous êtes étudiante et vous avez organisé cette journée. Bonsoir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Mais de rien, vous êtes en duplex avec nous depuis Radio-Canada à Québec. Cette question-là, celle de la radiophonie québécoise, vous l'êtes posée après avoir un peu questionné à travers vos études, et notamment à travers un mémoire et un documentaire, après avoir questionné justement ce que c'est qu'une forme de radio élaborée, on va dire. Vous êtes allé voir les uns et les autres pour ça.
Oui, voilà. Hein, j'ai eu l'occasion de faire un séjour en Europe, notamment, qui m'a permis de réfléchir à la condition de notre propre radiophonie, alors qu'au même moment ici, bon, vous en parliez d'entrée de jeu, Radio-Canada, un travail on dirait, d'annihilation de Radio-Canada depuis près de 20 ans. Hein, c'est pas non plus nouveau, faut pas s'en étonner aujourd'hui. Et bon, une forte popularité des radios commerciales du côté du Québec, particulièrement à Québec, donc des radios qu'on dit de contestation. Et donc évidemment, lorsque je me suis rendue en Europe, j'ai découvert une radio que je connaissais, bon, que j'écoutais déjà avant mon départ, mais j'ai quand même vu des gens qui fabriquaient de la radio. Et pour être, disons, pour adresser une critique ou pour devenir mécontent de la situation de la radiophonie ici, ben, il faut se rapporter à un idéal. Et disons que cet idéal-là, oui, forcément, j'ai eu l'occasion de le découvrir un peu à travers la radio européenne francophone.
Alors, il faut dire que ce qui en vous avez ouvert cette journée du 28 novembre à l'Université Laval, cette journée d'études sur la radiophonie québécoise, on a tout de suite senti, il y a tout de suite eu un parfum, on va dire, de manifeste, en tout cas au départ, de volonté très forte du pouvoir, de dire le pouvoir de la radio. On écoute un extrait de votre ouverture, de ce qui a été entendu au début de cette journée, un manifeste, je disais.
D'où vient l'idée de consacrer une journée tout entière à la radiophonie? Elle émane de différentes considérations préoccupantes. Au Québec, force est de constater que le radiodiffuseur public s'atrophie depuis près de 20 ans. Soulignons, en 2004, la disparition de la chaîne culturelle de Radio-Canada. Reste que ce qui devait être une chaîne consacrée à la culture, c'est-à-dire un espace de réflexion philosophique, sociale, économique, littéraire, un espace pour nos comédiens, un lieu pour nourrir et faire vivre notre commun, donne aujourd'hui dans le récital en continu. Soulignons également la marche rapide des radiodiffuseurs privés qui, parce qu'elles provoquent, bravent, attaquent, et plus souvent qu'autrement, le modèle québécois, asphyxie notre conscience collective, politique, nos volontés d'émancipation et nos plus fortes passions. Loin de stimuler l'envie de comprendre le monde et d'en être un acteur de développement, elle semble plutôt profiter de la complexité pour attiser le cynisme et décourager toute initiative ou envie de dépassement, nivelant par le bas. Et puis, certes, il y a toutes celles qui, à travers leur micro, survivent aux contraintes, à grands coups de passion et d'engagement. Radio communautaire, radio autochtone, radio étudiante. Je crois qu'il faut cesser de minimiser le rôle des radios qui composent le paysage québécois. Il est temps de se les réapproprier, en les concevant comme des lieux de résistance aux raccourcis intellectuels, à la crédulité, à l'ignorance, à la manipulation. Au contraire, puisse-t-elle être le poste où nous contredirons les grands tenants économicistes qui nous réduisent à de simples consommateurs, le poste d'où nous refuserons les simples opinions au profit d'une pensée rigoureuse et nuancée, le poste d'où, ensemble, nous pourrons envisager des alternatives à nos modes d'être au monde, le poste qui nous permettra de nous observer, de nous réfléchir, le poste d'où nous pourrons nous poser des questions quant à la direction vers où nous avançons, et un lieu générateur de solidarité plutôt que d'isolement.
Voilà un programme, Marie-Laurence Rancourt. Voilà, avec ces mots-là, vous avez, entre autres ces mots-là, ouvert cette journée d'études sur la radiophonie québécoise le 28 novembre. C'est un programme politique, c'est de la radio dans la politique ou de la politique avec la radio.
Ben effectivement, hein, pour moi, la radio est un puissant outil, un outil presque de combat. Hein, faut pas avoir peur des mots. Je pense qu'aujourd'hui, dans le climat austère qui est le nôtre, hein, on connaît l'austérité est partie prenante de notre quotidien au Québec actuellement. Je pense que c'est le temps de se réapproprier ce lieu radiophonique hein, qui doit être un véhicule de culture important, qui doit nous aider à comprendre ce qu'on vit en nous parlant de nous, en s'adressant à nos intelligences, à nos sensibilités, à nos curiosité, en interpellant nos passions collectives, on n'a plus que jamais besoin d'instituer et de prendre soin de cet espace de représentation là, au sein de la société québécoise.
Alors, il y avait qui en face de vous ce vendredi 28 novembre quand vous avez ouvert cette journée-là avec ces mots-là? Il y avait qui? Comment ça a réagi, Marie-Laurence Rancourt?
Il y avait des gens des radios communautaires, de la radio publique, des radios étudiantes. Je pense qu'on avait quelques personnes de la radio privée, donc on avait un paysage assez complet, si je peux dire, de ce qui se fait en radio au Québec, des créateurs aussi. Et comment ça a réagi au moment d'écouter cet extrait-là?
Au cours de la journée.
Oui. Je pense que les gens, en fait, la radio continue d'inspirer. Donc, les gens étaient parfois peut-être étonnés par ce qui leur était présenté. Hein. De toute façon, c'est un peu étonnant que la radio soit un objet de réflexion, d'analyse. C'est pas fréquent, on dit. Hein. C'est la première journée d'études sur la radio. Mais je pense aussi que les gens avaient envie d'en parler. Les gens qui étaient là parce qu'il y a des éléments qui les préoccupent. Ils ont envie d'entendre des choses différentes. Ils ont envie de fabriquer de la radio autrement. Donc, c'est sûr qu'on avait affaire à des gens qui étaient ouvert là, à entendre à la fois les critiques, la nouveauté, les éléments là, que les conférenciers et les analystes étaient là pour présenter. Donc, on avait des gens qui avaient envie d'une radio beaucoup plus inspirante. On sentait aussi quand même un mécontentement de ce qui se fait actuellement. Je pense que c'était assez unanime. Là, il y avait un consensus autour du fait qu'au Québec, on est très loin de l'âge d'or de la radio. On est très loin. Hein. On aurait des énergies. Cette journée-là donnait la preuve qu'il y a des énergies, qu'il y a des gens, que la radio continue d'inspirer, mais il faut leur donner justement les moyens de le faire. Et pour ça aussi, on était unanime. Aujourd'hui, il n'existe pas d'économie de la radio au Québec. Donc voilà, hein, ça n'existe juste pas, l'économie de la radio.
Et quand vous dites que l'âge d'or est très loin, vous voulez dire qu'il est devant encore, qu'il reste à venir?
Oui, il reste à venir. Ouais. Oui, le travail reste à faire et c'est merveilleux, en fait, parce que cette journée-là sera le premier jalon d'une histoire qui reste à écrire, qu'on aura à écrire ensemble. Mais vous avez raison, c'est devant nous. Il y a beaucoup d'énergie à y mettre, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on a des volontés de dynamiser tout ça qui sont bien présentes et cette journée-là a été l'occasion là, de les réfléchir et de les penser ensemble, de les organiser.
Alors, pendant qu'on parle, que vous êtes en duplex avec nous depuis Radio-Canada à Québec, il y a autour d'un téléphone à Montréal, à l'université, trois des participants de cette journée du 28 novembre. Il y a Cédric Chabuel, Chantal Dumas, André-Éric Letourneau. Chantal Dumas, vous êtes artiste sonore. André-Éric Letourneau, vous êtes chercheur et artiste. Vous êtes professeur à l'école des médias de l'université. Vous êtes aussi artiste sonore. Et Cédric Chabuel est réalisateur et artiste visuel. J'avais une première question à André-Éric Letourneau. Est-ce que vous, en tant qu'à la fois qu'artiste et chercheur spécialiste de la question des médias, vous partagez cette description d'un paysage radiophonique au Québec qui, pour le dire positivement, doit encore chercher son âge d'or?
Je ne sais pas si on peut dire qu'elle cherche son âge d'or parce qu'elle en a déjà vécu un.
Oui.
Est-ce qu'un autre âge d'or est possible? J'espère bien. Il est certain que l'âge d'or de la radio, je crois, après la Révolution tranquille au Québec, qui se situe donc dans les années 60-70, où la radio avait un rôle politique extrêmement important, ça, c'était l'âge d'or, selon moi. On pourrait même dire qu'il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu plusieurs âges d'or ici. La radio, techniquement, s'est développée pas mal au Québec. Hein. Il y a des inventeurs de la radio qui sont canadiens, en tout cas, et qui ont travaillé pas loin du Québec ou au Québec. Le futur de la radio, il est assez incertain ici. Parce que, d'une part, il n'y a jamais eu autant de stations de radio dans l'histoire de la radio. Je parle sur le plan mondial, en fait, parce qu'on a toutes ces radios web en plus du cadran radio qui est plein maintenant. Mais d'autre part, il y a une segmentation de l'écoute assez singulière. Les gens écoutent les stations ou certaines stations par petits groupes maintenant, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on ne peut pas tout écouter en même temps. Alors là, le problème qui se pose, c'est quel genre de station domine. Alors, sur le cadran radio, c'est les radios commerciales. Nous, on croit, parce qu'on est habitué à ça, que c'est normal que les stations commerciales prennent la plupart du cadran radio et la plupart de l'espace sur le web. Mais c'est quelque chose qui est à interroger aussi. Les radios publiques ou les radios culturelles, ou ce qu'on appelle ici les radios communautaires, chez vous les radios libres, pourraient prendre plus de place. Il pourrait y en avoir davantage, ce qui permettrait une diversification, nous l'espérons, de l'information auprès du grand public et une approche de la radio plus expérimentale et plus évolutive. Parce que pour l'instant, oui, il y a quelques initiatives dans les radios commerciales, mais ce n'est pas là que les plus grandes innovations se produisent.
Et vous voulez dire que le service public, ça peut être à cet endroit-là que ça va se passer, que ce relais peut être pris, ou est-ce que vous attendez, et par exemple de cette journée d'études, des formes de mobilisation, on va dire, plus marginales, où pourraient se trouver soit des modèles, mais en tout cas une forme d'élaboration de la radio?
Ben, je crois qu'on ne peut pas mettre ces deux choses en opposition. D'une part, il faut consolider un budget pour une radio nationale publique ici, et une radio qui serait ouverte à l'expérimentation, une radio qui n'essaie pas de trop se rapprocher de la manière dont les radios commerciales fonctionnent, parce que c'est présentement le cas avec Espace Musique, ici, qui est devenue, en fait, qui est la deuxième chaîne de Radio-Canada sur le FM, qui était à l'époque la chaîne culturelle, celle que mentionnait Laurence dans son discours, et qui a été fermée. C'était remplacé par une chaîne de musique continue avec quelques interventions, mais il n'y a plus grand-chose d'autre que ça, la chaîne Espace Musique, maintenant. Et ça, c'est un énorme problème. Mais, donc, d'une part, il faudrait consolider les budgets qui sont accordés à Radio-Canada, qu'un gouvernement en place ne puisse plus, par exemple, les diminuer parce que tout à coup, c'est la mode de couper là ou ailleurs. Et donc, un peu comme la BBC, un système comme ça. Et d'autre part, il faudrait que les radios commerciales puissent soutenir le développement des initiatives autonomes et communautaires et libres. Par exemple, un certain pourcentage sur des recettes publicitaires de ces radios-là, comme ça se fait dans certains pays, pourrait être prélevé et à ce moment-là être réinvesti pour favoriser le développement de nouvelles initiatives basées plutôt autour de la recherche et du progrès social et non pas de l'accumulation de capital, comme c'est présentement le cas sur la plupart des fréquences du cadran radio.
Alors à Montréal, aux côtés d'André et Éric Letourneau, il y a Chantal Dumas. Alors Chantal Dumas, vous êtes créatrice sonore, artiste sonore. Vos productions, vos créations, elles sont entendues un peu partout. D'autres chaînes radio culture, par exemple, on en a pu parler ici, évidemment, dans l'atelier du son, des Hörspiels sur d'autres chaînes radio culture. Vous avez été plusieurs fois primé. Des pièces qui ont été aussi entendues à France Musique, ici, mais vraiment un peu partout dans le monde. Au Québec, vos pièces, on va dire, qui relèvent de l'art sonore, du Hörspiel, du jeu avec les sons, est-ce qu'elles demeurent sur la scène, on va dire, de la radio ou plutôt, je ne sais pas, par exemple, du côté de l'art contemporain? Comment ça se passe?
Alors, il faut dire que le contexte est assez multiple. Peut-être un premier niveau, il faut dire que sur la chaîne publique de Radio-Canada, il n'y a plus d'espace de diffusion pour ce type d'émission. Il y en a eu dans le passé, j'ai reçu des commandes et tu avais certaines émissions comme l'Espace du son, par exemple, de Mario Gauthier, qui passaient des commandes à soit des artistes sonores, mais des personnes qui travaillent au niveau du son, mais qui pouvaient aussi travailler des aspects plutôt narratifs au niveau de la création. Donc, un genre qui était ouvert et qui faisait appel à différentes approches qui pouvaient faire partie des approches radiophoniques. Ce qui se passe aussi ici au Québec, c'est qu'il y a des radios communautaires qui ont des espaces qui sont vraiment dédiés à des explorations au niveau de la création radio. Donc, une radio très connue qui s'appelle CKUT, qui est à Montréal, qui est située sur le campus de l'Université McGill, donc plutôt anglophone. Et d'autres radios communautaires qui ont des émissions ici et là, qui ont des approches comme celle-là. Donc, ces émissions permettent de la diffusion de pièces comme celles que je peux avoir faites ou donnent la voix à des artistes qui ont des pratiques radio, qui ont leurs émissions soit mensuellement ou soit toutes les semaines et qui présentent différentes œuvres. Et je dois dire que personnellement, c'est un petit peu mon histoire personnelle aussi qui m'a amenée à vivre aussi en Europe, donc en France à Marseille et à Berlin par après, qui fait que je peux rentrer en contact avec ces différentes radios. Et ce que j'ai trouvé qui pour moi était magnifique, c'est quand je suis arrivée en Allemagne, je me suis dit « Oh wow, ça existe! Il y a une place pour cette radio de création! » Et vous avez mentionné Deutschland Radio Couture, mais il y avait aussi à l'époque la SFB, les différentes lenders ont des radios avec une plage horaire qui laisse place à ces approches créatives, qui sont des approches narratives pour la plupart. Ou si on pense une radio comme à Cologne, la VDR. Il y avait même une approche plutôt d'art acoustique qui a été développée, qui a vraiment connu, comme on en parlait précédemment, l'âge d'art dans les années 80, par exemple.
À vos côtés, Chantal Dumas, il y a Cédric Chabuel. Alors Cédric Chabuel, vous êtes réalisateur et artiste visuel. Vous êtes français installé au Québec depuis pas mal d'années maintenant. Et à vous, j'avais envie de poser une question un peu annexe. C'est-à-dire que l'image du Québec est quand même celle d'un grand dynamisme dans les médias et en particulier dans le multimédia, dans le web. Alors déjà, en termes d'image, le cinéma québécois, c'est quand même quelque chose et qui continue de se diffuser, ne serait-ce qu'à travers Xavier Nolan, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis, il y a l'Office national du film, l'ONF, qui a une politique de production particulièrement dynamique dans le web, de niveau vraiment mondial. Comment ça se fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a ce dynamisme du côté du son aujourd'hui au Québec? Il y a eu un choix? Enfin, comment ça se passe d'après vous?
Déjà, au niveau des productions... On ne peut pas dire web de l'ONF, mais plutôt interactive, parce qu'ils ont tendance à essayer de développer ça sur d'autres plateformes. Il y a quand même une attention spéciale qui est portée au son. Puis moi, je sais que quand j'ai commencé à avoir moins de travail, justement, à la radio de Radio-Canada, l'ONF m'a appelé pour travailler le son. Il y a quand même une attention qui est portée là-dessus. Puis il y a un savoir-faire du langage sonore qui peut éventuellement se transposer et s'épanouir sur ces nouvelles formes interactives. Mais c'est sûr que moi, du point de vue de l'immigrant qui arrivait ici, mes premiers séjours au Québec, j'ai découvert plein d'artistes passionnants et passionnés et très actifs, dont Chantal d'ailleurs, avant même d'habiter ici. Mon premier voyage, j'ai tout de suite frappé à sa porte. Aujourd'hui, je pense qu'on a vécu un genre d'étourdissement suite à quelques coups très forts qui ont été portés, que ce soit la fermeture de la chaîne culturelle que moi j'ai pas connue, je suis arrivé juste après. Et puis ensuite la disparition progressive des émissions à Radio-Canada qui éventuellement laissaient de la place à l'exploration sonore ou même juste tout bêtement à des contenus qui utilisent le langage sonore, que des reportages, des documentaires ou des fictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est pratiquement juste dans une radio de studio avec des micros et de la musique. Donc je pense que la disparition de tout ça au niveau des gens qui sont des créateurs, ça a peut-être créer une forme d'étourdissement. On se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on diffuse? Et donc, on s'est un petit peu tourné aussi professionnellement vers d'autres activités. Mais récemment, j'ai l'impression qu'on commence à se rencontrer à nouveau, on commence à discuter, on commence à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et surtout, c'est surtout la question de la diffusion, finalement, qui se pose un peu aussi dans d'autres pays, avec l'arrivée d'Internet et compagnie. Mais ici, on nous force un peu la main. Parce que c'est sûr qu'on nous coupe un peu la place sur les ondes. Donc on cherche comment on va diffuser. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Enfin, je trouve qu'en même temps, c'est un beau défi, quoi, parce qu'il y a effectivement d'autres manières d'écouter la radio, d'écouter le son, que ce soit dans l'espace public, en créant des rencontres physiques, dans des soirées d'écoute, que ce soit dans l'espace numérique. Puis au Québec, par contre, la question qu'on doit se poser très rapidement, c'est que, comme vous le savez, le Québec, c'est pas un pays, ou certains diraient que c'est pas encore un pays. Donc ici, le Québec se définit culturellement. Donc à chaque fois qu'on veut poser un geste culturel, finalement, on pose un geste identitaire. Alors la grande question, je crois, qu'on va se poser, en plus de la question de la diffusion, c'est quelle portée on vise. Est-ce qu'on vise une portée québécoise francophone? Est-ce qu'on vise une portée québécoise bilingue? Est-ce qu'on vise une portée canadienne? Est-ce qu'on vise une portée de la francophonie à l'international? Parce que, évidemment, l'utilisation de l'espace numérique, ça pose ces questions-là. On peut s'adresser pour une fois peut-être aux Français, s'adresser peut-être pour une fois aux francophones d'Ontario, aux francophones du Manitoba. Donc ces questions-là, je crois, ça va être peut-être les questions qu'on va commencer à se poser maintenant qu'on s'est rencontrés à la journée.
Marie-Laurence Rancourt, alors vous entendez toutes ces questions posées par Cédric Chabuel comme autant d'ouvertures après la journée du 28 novembre. C'est finalement ça, la conclusion de cette journée, si je comprends bien. C'est une série de questions, pas de prise de conscience, mais de questions qui vont précéder l'action. Rapidement, pour terminer, il va y avoir des actes, il va y avoir des traces de cette journée pour justement poursuivre pour la suite.
Oui, effectivement. Bon, la journée a été enregistrée, donc les gens vont pouvoir réentendre les conférences. Il y aura des comptes rendus là, écrits, rédigés. Mais je pense que, juste pour souligner en conclusion, là, on voit bien qu'il y a une diversité des gens qui étaient présents. Donc, c'était déjà, là, cette journée-là, c'était pour faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Hein, des gens qui ont des visions de la radio différentes, mais qui vont être amenés à se parler, parce que là, il y a quelque chose à faire. Hein. Je pense qu'on est dans un moment assez critique, là, selon moi, pour la radio, et je pense que ça va... Justement, il va falloir fédérer nos énergies, se rassembler autour de projets pour faire en sorte là, que cette radio-là, qui a un rôle si important dans l'espace public, bien, reflète la diversité de nos existences. Et bon, comme le disait Cédric, considérant la diversité des existences qui se côtoient au Québec, bien, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais il faut croire en des lendemains qui sont beaucoup plus intéressants pour la radio, beaucoup plus divers, beaucoup plus audacieux, créatifs et bon, qui font aussi la part belle au contenu. J'espère que cette journée-là aura été une contribution importante là, pour des changements en termes de radiophonie au Québec.
Et on va être attentif de ce côté-là aussi de l'Atlantique à ces suites radiophoniques au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en duplex depuis Québec, Marie-Laurence Rancourt à Radio-Canada. Et merci à Cédric Chabuel, à Chantal Dumas et André-Éric Létourneau. Vous étiez à Montréal autour d'un même téléphone. Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt.
Qu'est-ce qu'il faut rêver de mieux pour faire de la radio, du temps et de l'argent?
Aujourd'hui, un peu moins des deux. Hein?
Un jour, j'ai dit à un ami physicien que les gens de radio étaient comme des éphémères qui ne volent qu'un jour et disparaissent. C'est faux, m'a-t-il répondu. Tout ce qui existe est détruit par le temps. Les monuments les plus beaux, les livres, la planète elle-même disparaîtra. Mais vous, les voix de radio, vous êtes éternelles. Vos paroles emportées par les ondes hertziennes voyageront dans l'univers aussi longtemps qu'il existera. Un instant, j'imaginais un auditeur scrutant le ciel dans l'espoir d'y apercevoir quelques vocalises de son animatrice veillant sur lui comme un ange.
Il faudrait employer des mots pour avoir la parole.
Peut-être qu'ils avaient oublié c'était quoi la radio.
J'ai cru entendre un poste de radio mal syntonisé.
On s'est emmêlé les pieds en voulant avancer, mais au moins on a essayé.
La Société Radio-Canada, ayant chanté tant et tant d'années, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle a la cryopanie.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Jacques Bertrand qui vous parle. Cette semaine, Macadam en balado.
Qui aurait alors acteur?
Une fine main à la fois.
Actuellement, on doit être rendu à 600 ou 700 millions de dollars de compression budgétaire depuis que je suis à Radio-Canada.
Imaginez-vous si Radio-Canada disparaissait ou en tout cas revenait à sa plus simple vision de culture.
Pour nous aider à saisir la complexité du monde qui nous entoure, on a besoin d'une radio publique et non d'une radio d'État.
Là, ça s'adresse à vous.
Restez avec nous.
Il est tard le soir, mais vous êtes bien là avec nous, dans l'atelier du son, sur France Culture.
Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était ? Oh, je sais plus. Tu vois pas? Ah, attends. Ça m'énerve, je sais plus. Oh, ça, c'est... Comment ? Ah !
Bonsoir, Dominique Petitgan.
Bonsoir.
Ce n'est qu'un extrait.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve.
Eh oui, le bout de la langue de Dominique Petitgan. On le reconnaît, même les auditeurs de France Culture, je pense, sont particulièrement familiers avec cette pièce-là qui est la vôtre. On reconnaît votre style, on reconnaît ses ruptures familières, on peut glisser l'oreille, on peut glisser l'écoute dans ces blancs numériques. Et... On l'entend régulièrement accompagnant Antoine Perrault en particulier dans ses émissions, qui est intégré dans un indicatif sur France Culture. Cette voix, quelqu'un qui recherche, qui a quelque chose sur le bout de la langue. D'ailleurs, je crois que c'est le titre d'un disque, à vous, Le Bout de la Langue.
Le Bout de la Langue.
Voilà, Dominique Petitgand. Vous êtes un des grands noms du son dans l'art contemporain, avec des productions qu'on peut entendre en galerie, qu'on peut entendre en CD, donc, et même sur Internet, évidemment. Et ce soir, vous nous rendez visite, non pas pour un disque, pas pour une production sonore directement, mais pour un livre, un petit livre qu'on peut glisser dans la poche, « Sommeil léger ». Livre 3, qui paraît chez Le Gac Presse, et qui se trouve dans une collection Écrit Fort Accord, la collection Écrit Fort Accord de Le Gac Presse, qui est une collection, au départ, destinée à des écrits autour du cinéma.
Oui.
Et vous, ce livre-là...
Et moi, je ne fais pas de cinéma.
Vous ne faites pas de cinéma.
On m'a proposé de faire un texte, et j'ai proposé ce que... Ben, en fait, comme toujours, chaque fois qu'on propose quelque chose... Pour dire oui, il faut que ça corresponde à une envie que j'avais, une envie assez ancienne. Mmh. Il se trouve que mes pièces sonores donnent lieu à des textes, donc j'avais l'occasion d'en réunir quelques-uns et de créer un long texte issu de fragments tirés de différentes origines.
C'est une sorte d'auto-cut-up à l'intérieur de vos pièces ?
Oui, comme je fais toujours. Chaque fois que je présente un ensemble de ce que je fais, je refais un montage. Mes pièces le permettent parce que quand ce sont des pièces sonores, elles sont plutôt courtes. Quand ce sont des textes, ce sont des textes courts aussi. Donc, je peux jouer au domino.
Jouer au domino pour mettre côte à côte, comme ça, des pièces, des extraits aussi, d'éléments qui étaient déjà des textes au départ, parfois, dans ce livre-là, non ?
Alors, il y a plusieurs choses. Ce que je dois dire avant tout, c'est que le texte n'est jamais à l'origine des pièces que je fais. Je n'ai pas une démarche littéraire, je n'écris pas... D'abord, quelque chose que je réaliserai ensuite. C'est le texte vient toujours après ou à côté. Donc, il y a le texte des pièces. Et comme je travaille avec des voix, je fais des montages. Le montage donne lieu à un texte quand je transcris le montage final. Donc, ça, c'est une série de textes. Et puis, à côté, il y a les textes que j'écris par ailleurs, qui sont des commentaires que je fais sur ce que je fais. Mmh. Commentaires sur les installations, des notices des œuvres. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écrire d'autres choses qui étaient liées de façon indirecte à mon travail. C'est de... En gros, parler de comment j'entends ou j'écoute dans ma vie ou à l'occasion d'une situation. Et donc ça donne lieu à des textes qui ne sont pas des sons, mais où je parle de comment j'écoute ou ce que je perçois.
J'entends au loin un battement marin qui n'a rien à faire là, en pleine rue. En passant le coin, j'aperçois en haut de l'échafaudage un grand pan de bâche en plastique libéré de ses attaches, prêt à rompre, qui flotte, affolé comme un drapeau par grand vent. Irruption nocturne d'une nature sans contrôle. Je reste un temps grisé, avant de rentrer me coucher. Par exemple. Cette situation d'écoute qui déborde d'ailleurs le son, qui déborde l'oreille. On se retrouve dans un moment qui est enrobé dans le son.
Oui. Et là, je dis « je ». La personne qui dit « je », c'est moi. Mm-hmm. Mais évidemment, c'est le lecteur. Mais du coup, dans ce livre cohabitent différents « je ». Parce que la voix qu'on vient d'entendre qui dit « je l'ai sur le bout de la langue », c'est un autre « je », mais mm-hmm. c'est une autre voix. Et tous ces « je » se... dialogue entre eux dans ce livre.
Le titre, c'est « Sommeil léger ».
Sommeil léger.
Alors, sommeil léger, ça veut dire que ce moment où on n'est pas totalement endormi, mais on peut s'apprêter à l'être, mais on reste encore réveillé, on a encore les deux pieds sur terre. Est-ce que c'est un moment privilégié, justement, soit pour entendre, soit pour être en condition d'écoute ?
Il s'agit toujours... C'est vrai que moi, quand je trouve un titre, je suis souvent heureux. Je me dis « Ah tiens, j'ai trouvé quelque chose ». Qui a plusieurs sens. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de bascule toujours entre le réel et l'imaginaire, entre le jour, la nuit, l'éveil, tout ça, le rêve. Les gens, des fois, me posent des questions. Est-ce que mes pièces, ce sont des rêves ? Ben, oui et non. Voilà. Oui, d'un certain côté, non de l'autre. Donc, le sommeil léger, c'est un peu ça aussi. C'est un peu entre les deux.
Mmh. Alors, dans ce livre, il y a effectivement du texte et des captures d'écran. Parfois, il y a les reprises, on va dire... réécrite des sons, il y a des mots écrits à la main par vous aussi, oui. Voilà, différentes formes, différentes polices de caractère aussi parfois. Varier les formes, c'est ce qu'on trouve aussi dans vos sons. Il y a des variations, parfois légères, mais c'est très présent.
C'est précis. Alors, c'est une question de mise en page et puis aussi de choix de typographie ou de, d'écriture à la main ou typo. C'est aussi parce que les textes viennent de différentes origines. Il y a des textes dont on dit qu'ils sont la transcription d'œuvres sonores, d'autres qui sont des textes que j'écris à côté, d'autres qui sont des commentaires, tout ça.
Et sur plusieurs années, d'ailleurs.
Et sur plusieurs années. Donc déjà, c'était d'assigner à chaque origine un traitement, une mise en page particulière pour que, quand bien même il y a un fil conducteur, on lit d'une page à l'autre, si on veut, chaque chose s'origine dans un ensemble différent. Et c'est aussi quels sont les moyens que j'ai quand je fais quelque chose sur papier pour changer la voix ou pour changer le débit ou bon, en fait la lecture, voilà, dans, plus ou moins dense, plus ou moins de vide autour des mots. Donc quels sont les moyens? C'est de faire un texte plus resserré, parfois de l'écrire à la main, parfois de le transcrire en noir et lettres blanches sur fond noir, parfois en colonne. Voilà, c'est aussi comme un cœur de différentes voix. Mmh.
Dominique Petitgand, vous êtes venu ce soir avec une pièce sonore. Comme en écho avec ce livre, il y a ensuite.
C'est une pièce très ancienne, 94, comme le bout de la langue, à peu près la même époque. Et oui, quelle est la question?
Simplement en parler pour dire qu'on va l'écouter.
Il y a les drapeaux qui flottent.
Ensuite.
Il y a un bateau qui est sur la plage.
Ensuite,
il y a des gens qui se sèchent sur la digue.
Ensuite,
puis il y a une dame qui a fait sécher son linge d'or.
Oh.
Des habits par terre, pas déchirés, il y a des algues.
Ensuite,
il y a une autre dame en train d'acheter des habits ou je sais pas quoi.
Ensuite.
Et puis c'est un magasin avec où ils vendent des livres, cette vidéo.
Ensuite.
Il y a une maison, il y a une dame en train d'éplucher des pommes de terre.
Ah bon?
Il y a dans la maison, il y a des cadres.
Ensuite,
il y a des spectateurs qui les regardent.
Ensuite,
le squelette. Il y a un squelette.
Comment ça?
Il y a des fleurs.
Ensuite.
Il y a ensuite cette pièce donc de 1994, Dominique Petitgand. Mais ce sont comme des images fixes qui se succèdent, une description et un récit, puisque ensuite invite au récit des images fixes qui font un récit. C'est aussi une définition du cinéma pour y revenir. Enfin, ça, c'est une proposition. Et l'autre proposition que je voulais faire, c'est que une définition du cinéma, c'est que c'est un cache. C'est-à-dire que l'image qu'on voit est permise par le cache qui est autour et qui masque tout le reste. Et j'ai l'impression que de temps en temps, dans certaines pièces que vous signez et qu'on écoute, que vous mettez vous-même un cache. Et il y a quand même quelques interstices par lesquels passent certains moments du son. Voilà un cache que vous posez sur le son.
Oui, parce qu'il s'agit toujours de montrer quelque chose, puis d'en cacher d'autres. Alors, moi, c'est vrai que le cacher, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est un peu quand je parle du vide ou du silence. Mm-hmm. Il s'agit de creuser, je dis plutôt creuser, enlever, soustraire pour cacher. Oui. Là, en l'occurrence, c'est quand il y a un récit, c'est cacher suffisamment de choses pour qu'il y ait un espace vacant pour l'auditeur.
Mm-hmm. Se faire sa propre histoire aussi.
Oui.
Mmh. Ça se passe donc dans Sommeil léger. Sommeil léger, c'est aussi une manière, ce livre, de... Est-ce que pour vous, c'est une manière de faire un point parce que sur ce que vous avez produit à la fin, voilà, il y a marqué transcription didascalie de pièces sonores réalisées entre 1992 et 2013.
De points, non, mais je me laisse libre chaque fois que je fais quelque chose de ne pas être dans une forme de chronologie, de ne pas forcément montrer ce que j'ai fait en dernier. Je peux aussi bien montrer des pièces très anciennes, avec des choses très nouvelles. C'est aussi parce que l'ensemble de ce que je fais fait partie d'un tout.
Mmh. Il y a effectivement des didascalies. Est-ce que ça voudrait dire qu'un comédien pourrait se saisir de ce livre-là pour monter sur scène ?
Alors, comme c'est un livre, les gens font ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. Moi, je ne le ferai pas, mais les gens font ce qu'ils veulent. Un livre, bah, après, se lit, s'interprète.
Circule, s'échange.
Se lit du début à la fin ou une seule page. C'est la liberté du lecteur.
Ou s'offre pour Noël.
Par exemple.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous en parler ce soir à la fin de l'Atelier du son. Dominique Petitgand, merci. On se quitte avec du mercurochrome qui existe en son. On va l'écouter et qui est dans Sommeil léger.
Merci à vous.
Merci.
J'essaye de le porter. Je le traîne. Par les pieds. Je le traîne par les pieds. Ensuite, je le prends. Je prends les jambes. Ben, je l'aide à se relever. Puis je le porte. Je porte. Sur le ventre.
On termine l'atelier du son par une histoire. On vous en raconte en fin d'émission très régulièrement une histoire vraie de son qu'on vient recueillir ici ou là. Ce soir, c'est Charlotte Picard qui nous raconte son histoire. Proche de l'association Fragments et du festival Densité qui soutiennent les musiques improvisées, les musiques expérimentales en Lorraine, Charlotte Picard, comme quoi on a commencé dans l'Est et on termine dans l'Est l'émission de ce soir. C'est un hasard. Elle se lance, elle y va. Il était une fois.
Il était une fois une fille qui écoutait de la musique improvisée depuis quelques années, qui devint une femme enceinte et qui donc eut un être vivant à l'intérieur de son ventre. Un truc très très étrange, une sensation un peu inédite comme ça, qui arrive à la moitié de la population, en tout cas une bonne partie de la population à un moment ou un autre de leur vie. Mais il y a un vrai être vivant et une fois qu'on l'a expérimenté une fois, ça existe. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, ça n'existe pas. Et donc, ça m'est arrivé deux fois. La première fois, c'était en 2006. Et ça faisait donc 5 ans que j'écoutais de la musique improvisée. Et je vais à un concert de Frédéric Nogret, enceinte de 5 mois et demi, 6 mois. Frédéric Nogret fait de la musique sur des bols en cristal qu'il fait sonner. Et donc, j'ai expérimenté le jour-là la sinusoïde qu'on nous fait voir sur des oscillogrammes en quatrième, en classe de techno. Là, on sent vraiment la vibration monter, descendre. On la sent passer au-dessus de nos têtes, passer dans nos corps, passer au-dessus de nos têtes, passer dans nos corps. Et pour écouter ce concert, on était allongés sur un plancher au Théâtre du Solci à Metz, allongés sur le sol. Et donc j'étais enceinte et moi j'écoutais le concert comme n'importe quel autre concert. Et j'ai senti le son traverser mon corps, rentrer dans l'enfant qui était à l'intérieur, qui pour moi était encore quelque chose de très conceptuel. Et j'ai senti le bébé écouter le concert aussi. C'est quelque chose de très étrange, de cette sensation physique d'un être à l'intérieur de son propre corps qu'on n'imagine pas entendre, se détendre complètement. J'avais l'impression qu'il s'étalait, c'est-à-dire qu'il débordait du mien, de mon corps, qu'il essayait de prendre le plus d'espace possible pour que le son le traverse le plus possible. Et ça m'a chatouillée, en fait. C'est-à-dire que le bébé à l'intérieur de mon ventre a entendu le son du cristal de Frédéric Nogré, s'est détendu et m'a fait rire en plein milieu du concert. Et les quelques personnes qui étaient autour de moi se sont retournées et ont dû comprendre ce qui se passait parce que m'ont plutôt souri, alors que normalement on a un devoir de silence pour que l'écoute soit la plus complète possible. Mais là, voilà, il s'est passé quelque chose de très étrange, la sensation de cet être vivant à l'intérieur qui entendait alors qu'il était dans une poche d'eau. Et la deuxième, c'est passé en 2009, parce que j'ai eu un deuxième enfant. J'ai voulu aller assister à un concert pendant Densité parce que j'avais envie. C'était Peter Brotzmann. Je me suis dit, c'est bon, je vais y aller. Je me suis assise par terre. Parce que quand on est enceinte, on est fatiguée. Là, j'étais enceinte de 8 mois et quart. Donc vraiment, j'étais très, très enceinte. Et le concert a commencé. Et au bout de la deuxième seconde et du troisième son, je me suis pris un coup de pied phénoménal dans l'estomac. Et c'était très violent, là. Vraiment très violent. Et donc... Mais la musique était très, par rapport au bol de cristal, était très violente aussi. Pas très violente, c'était très forte, très, très virulente. Et donc là, le coup de pied a été extrêmement violent et le signal était très clair. Ma fille refusait que je reste à ce concert. Et donc, je me suis le plus vite possible levée, je me suis pris d'autres coups de pied. Et c'était vraiment voilà, cette sensation d'avoir l'enfant qui est à l'intérieur, qui entend. Et c'est très, très... confondant, quoi. C'est quelque chose d'improbable à imaginer. Je suis sûre que j'arrive pas à l'exprimer, quoi, à l'expliquer, parce que c'est un alien, quoi. C'est-à-dire qu'on on est Sigourney Weaver et il y a quelqu'un à l'intérieur qui nous dit non, tu fais pas ce que t'es en train de faire, tu dégages ou tu restes. Voilà, en fait, c'était pas mon son, c'était leur son, leur premier son. Et c'est ça qui est assez fou, de se rendre compte que ce sont des êtres humains, en fait, et qu'ils ont déjà une audition et qu'ils arrivent à nous le faire savoir.
Histoire de son, signée Charlotte Picard. C'est sur du Frédéric Nogré qu'on termine l'atelier du son de ce soir, dont vous retrouverez les compléments, la réécoute, les commentaires et les podcasts sur franceculture.fr. L'atelier du son est préparé et coordonné par Inès De Bruyne, réalisé par Véronique Lamandour. Et au son ce soir, il y avait Alain Joubert. Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine prochaine dans les ateliers de la nuit, dernière semaine de l'année. Mardi soir, dans l'atelier fiction, Jules, Jim et Kate, à l'occasion de l'exposition consacrée à François Truffaut à la Cinémathèque, Un pur amour à trois, écrit par Henri-Pierre Roche. Mercredi soir, une veillée, pour le 24 décembre, un hommage à un homme et à la radio, sans voix, autour de l'œuvre de Gilbert Maurice Dupré. Marie Guérin est partie à l'écoute de sa collection de sons. Jeudi soir, un paysage pur pour le soir de Noël. Isabelle Sordage confronte la vision du poète à celle du mathématicien et du physicien, face à cette question d'un paysage pur. pour éclairer cette relation à l'espace et au vivant que nous entretenons. Car finalement, qu'est-ce qu'un espace et où sommes-nous ? Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur. Nous serons ensemble de 23h jusqu'à minuit et ce sera en direct, en studio, un repas de famille avant Noël. En attendant, n'oubliez pas que tous les ateliers, ateliers du son, ateliers création, ateliers intérieurs, ateliers fiction, sont à podcaster sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit et il sera bientôt temps de faire l'éloge du savoir avec Christine Goémé.